Bonjour auditeurs, auditrices, bienvenue à ce nouvel épisode de Cinébrunch. Je suis moi-même Louis Laramé, accompagné de mes habituels collaborateurs Jim Boulay.
Salut!
Et Mélina Lopez-Nado.
Bonjour!
Comment allez-vous, gang?
Ça va bien. Hey, c'est notre c'est notre 40e épisode.
40e épisode, ouais. 38e où je suis présent, parce que ça m'arrive d'avoir des épisodes où je ne peux pas me pointer.
D'épisodes d'absence, comme on appelle.
Ouais, ou des épisodes en tout cas, d'incompti pas là.
Oh boy!
Et Calvin, je suis pas sûr où je m'en allais avec ça.
Moi non plus.
Donc, en cette belle semaine, vraiment trop ensoleillée, je vous parle de nouvelles du cinéma, particulièrement du tout nouveau, de l'univers de Men in Black, qui va recevoir un nouveau film, Men in Black 2.0. Oh. Mettant en vedette, entre autres, Chris Hemsworth, un des Chris favoris d'Hollywood en ce moment.
C'est vrai, il est très beau.
Oui.
Je le replace pas, là, vite de même.
Thor.
Ah, ah oui?
Monsieur qui joue Thor.
Lui, il va jouer un Men in Black?
Oui. Et je te jure que... Ah non, en suit, il look en sacrifice.
Ah bon, d'accord.
Rappelle-toi qu'il est rendu avec les cheveux courts.
Ah, c'est vrai, ça aide déjà.
Des grosses lunettes de soleil, comme ça le fait. Il va être joint par Alyssa Thompson, la dame que l'on connaissait pour son rôle de Valkyrie dans Thor Ragnarok. Également, Steven Spielberg va être là comme producteur. Donc...
Mais attends un peu, Will Smith, puis Tommy Lee Jones là-dedans.
Gone, baby,
oh.
Gone.
I'm so sad.
Apparemment que le nouvel univers va être plus ouvert sur le monde et va en compenser plus de locations que les quatre mêmes blocs de New York.
Ah, bon, ben...
On va souhaiter...
À suivre.
C'est supposé sortir en été 2019.
Dans un an encore, c'est un petit peu loin.
Ouais, je sais, mais on a eu les premières images du tournage là, puis je te confirme, Chris Hemsworth, il look en Men in Black.
Ben, j'ai hâte de voir ça, franchement.
Jim, qu'est-ce que tu as à nous amener cette semaine?
Ben écoute, on va rester dans le thème de Steven Spielberg parce que ce monsieur, disons, je sais pas si on pourrait dire très prolifique, je dirais que oui. Donc ce monsieur très prolifique, très occupé aussi, avait annoncé, rappelons-nous, je pense en 2017 ou en 2016 même, l'arrivée éventuelle d'un fameux Indiana Jones 5 qui a par la suite été, qui était prévu pour une sortie en 2019, qui vient en fait d'être, il y a quelques mois, disons, repoussé à 2020. Et croyez-le ou non, ça se pourrait même que le film n'existe pas du tout parce que, en fait, il est en train d'être réécrit au complet. Donc, ouais, il y a eu un changement au niveau du scénario et Steven Spielberg qui avait dit que ce serait sa priorité de faire ce film-là, mais finalement, étant donné la réécriture, a décidé de se consacrer à un autre projet qui est le remake de West Side Story qui va donc probablement sortir avant Indiana Jones 5. Indiana Jones 5 qui prévoyait, et qui prévoit toujours, avoir comme personnage, en fait, je pense que c'est comme personnage principal, c'est pas dit, mais le Harrison Ford dans un rôle proéminent, probablement le personnage principal. Monsieur Ford qui est rendu quand même à 77,
ouais,
il est assez âgé.
Est-ce qu'on sait si l'incroyable Shia LaBeouf va toujours être de la distribution?
Je n'ose point me poser la question, mais en fait, il y a peu d'informations même sur le casting du film à l'heure actuelle. J'ai l'impression qu'il se donne un petit peu de marge de manœuvre.
De lousse,
c'est ça. Alors, va-t-il sortir, va-t-il pas sortir? Espérons juste que Monsieur
Ford,
oui, survive et puisse nous donner, j'espère, un dernier bon. J'espère, cette fois-là, j'insiste sur le mot bon, Indiana Jones, parce que bon, il y a eu le premier et le deuxième. Quelques autres choses se sont produites par après. Et
voyons,
peut-être
Jim,
le cinquième sera bon.
On
qui
entend
sait?
Presque que tu n'aimes pas ni le cristal, ni les extraterrestres.
Non, ben c'est un peu ça.
Mélina, qu'as-tu à nous amener de bon cette semaine?
Hey, moi, j'ai fait quelque chose de vraiment...
Fou.
Vraiment fou, wouh! Non, en fait, vous savez, si vous avez écouté Jim dans les dernières années, dans les 40 derniers épisodes, il parlait souvent d'une trilogie de films. Et aujourd'hui, j'ai donc écouté le premier de cette trilogie parce que je l'ai trouvé sur Netflix.
J'ai aucune idée de quoi tu parles,
aucune idée
ça
de quoi
pique
je parle.
Ma curiosité. Parce
c'est
que
les films de Daniel Auteuil.
Oh, t'as écouté Marius!
J'ai écouté Marius aujourd'hui.
Ah, intéressant. Oh, tu t'es tapé un bon 2h30 pour plaisir.
En même temps, intéressant pour qui?
Ah,
là
non, mais j'ai envie
la
dire.
Question.
Pour tous.
Bref, les deux premiers sont sur Netflix. Donc,
oui. En fait, le troisième, je pense qu'il n'a pas été fait tout court.
Non?
J'ai jamais réussi à le voir. En tout cas, le troisième était censé passer les trois au cinéma back-à-back. Et finalement, le premier et le deuxième ont été faits. Je pense que le troisième a manqué de fond. S'il a été fait, il n'a pas été distribué au Québec.
Donc, parce qu'à année, les censeurs québécois ont dit un film français de plus ou de moins, qu'allons-nous en faire?
Ben, c'est peut-être. Est-ce que tu es sur le CA de l'équipe de censure de la Régie du cinéma du Québec?
Je ne peux ni confirmer ni nier.
Bon, voilà, c'est ça. Reste vague. Reste
à
vague.
Cette organisation. De voir un film sur les Olympiques.
Oui, exactement.
Hein? Ça gosse, ça arrive.
Non, c'est pas
vrai. Voir un film sur des... Sur je sais pas quoi dire. Tomber en enfer. Sur plongée? Non.
J'ai été voir un film qui s'appelle Plongée, en fait, parce qu'il est question d'eau dans le film. Ah. Donc, mais non, il n'est pas question d'Olympique.
D'eau douce?
De plusieurs types d'eau, Louis.
Oh.
Je te dirais qu'en général, l'eau était bleue.
Parce qu'il y a aussi plusieurs types de dos.
Je me reconnais de moins en moins dans cette émission-là. Moi.
Non, en fait, oui, c'est ça. En fait, j'ai été voir le film Plongée. Donc, c'est un drame français qui a été réalisé par Mélanie Laurent. Et fin intéressante, Jim va vous parler tantôt d'un autre film.
Absolument.
Dont le film Le Retour du héros. Et Mélanie Laurent, qui a réalisé le film dont je vais vous parler à l'instant, tiens, le premier rôle dans celui que Jim est allé voir.
Le deuxième rôle, quand même, mais oui.
Le deuxième, oui. Alors, ben, deux premiers rôles.
Voilà, voilà.
Ouais. Donc c'est ça, oui. Donc, c'est une drôle de coïncidence, quand même. Et une autre des actrices qui est dans son film, qui joue un rôle secondaire, fait aussi une apparition dans le film que j'ai vu. Donc, tout s'entrecroise.
Tout mon texte introductif de ma critique a été déjà utilisé. C'est merveilleux.
J'aime ça. Je pense qu'on devrait faire ça plus souvent. Mais Lina, on aurait besoin que tu lises les notes de Jim régulièrement.
Oui, c'est ça. C'est juste des drôles de coïncidences entre nos deux films.
Absolument.
Mais bon, c'est le cinéma français, alors c'est ça qui
est tout pareil.
Tout est dans tout, hein?
Tout est dans tout. Donc, en fait, mon film, le film que je suis allée voir, le film Plongée, c'est l'adaptation d'un roman du même nom par Christophe Onodibio. Dans les rôles principaux, on a Gilles Lelouch qui interprète César et Maria Valverde qui interprète Paz. Donc, je vais vous lire le synopsis. Donc, c'est l'histoire d'un amour total entre César et Paz.
Total.
Paz.
Total.
Non, mais qui s'appelle Paz dans la vie?
Qui s'appelle César?
Quand même pas mal plus de monde.
Mais César, c'est très français. Paz, c'est très espagnol. En même temps, c'est juste parce qu'on est beaucoup
Québécois.
Mais
César aussi, c'est assez espagnol. Parce que, tu vois, l'animateur de Calor Latino s'appelle César Gomez.
Écoute, je l'ignorais. Bon, shout-out César Gomez.
Voilà. Donc, donc, c'est ça. Donc, on a César et on a Paz, comme on le disait. Paz est photographe espagnol et elle nourrit une soif de rencontres, d'expériences et de voyages, alors que César, ex-grand reporter de guerre, souhaite à l'inverse s'extraire du tumulte du monde. Paz est enceinte, cette perspective l'angoisse, l'étouffe. Elle semble s'éloigner chaque jour un peu plus de César, comme obsédée par quelque chose qui lui échappe. Jusqu'au jour où elle disparaît, laissant son enfant et César sans véritable explication. Donc voilà un peu le synopsis de l'histoire. On va aller écouter la bande-annonce.
Ça a l'air joyeux.
Comment tu te sens?
J'étouffe.
T'as pas envie qu'on choisisse un prénom, un autre enfant, je sais pas.
Tu me vois pas que j'ai fait plus rien. J'ai plus d'idées. Tu devrais être rempli et je suis vide.
J'en ai un peu marre, là. Tu sais, tout est truc.
Fallait pas me mettre enceinte.
Hey, ça a l'air drabe en maudit, ce film-là, tu pas?
À entendre la bande-annonce, j'ai moins envie d'y aller que jamais.
Mm. Ah, ça a l'air vraiment lourd.
Oui, ben c'est ça.
Ça a l'air lourd de choses vraiment banales.
C'est un drôle de film. Vraiment, c'est un drôle de film. Il est un peu en trois langues, si on veut, parce qu'on a des personnages dont Paz qui parle parfois espagnol, c'est sous-titré. On a de l'anglais et du français aussi, parce que César est français. Donc, ça se passe un peu en trois langues, donc ça, c'est intéressant. Et le sujet abordé, écoutez, c'est un sujet qui est assez commun, assez banal, c'est-à-dire, c'est l'histoire d'une femme qui se sent coincée dans sa relation de couple et qui finit par s'éloigner de ses vrais intérêts. Donc elle devient blasée, en fait, de sa vie parce qu'elle rêve de voyager, tandis que César, qui revient de faire des reportages sur la guerre, va même jusqu'à lui interdire de partir dans certains pays toute seule parce qu'il craint pour sa sécurité à elle. Et elle va l'écouter. Il n'y a pas d'histoire de violence conjugale. Elle fait juste... Elle l'écoute, puis elle se met de plus en plus de côté. Elle met de plus en plus de côté ses vrais intérêts. Elle ne voulait pas d'enfant. Elle finit par être enceinte, avoir un enfant. Donc, elle devient vite blasée, mais elle devient anxieuse. Elle devient comme à la recherche de quelque chose d'autre. Et c'est là qu'elle va partir, en fait. Donc, c'est un sujet quand même intéressant à démontrer. Mais le problème un peu avec ce film-là, c'est qu'à la fin du film, j'avais l'impression d'avoir vu deux moyens-métrages plutôt qu'un film au complet. Donc,
avant qu'elle parte et une fois qu'elle est partie?
Ouais, c'est ça. Okay. Il y a vraiment un peu comme Flatliners qu'on a vu un peu plus tôt cet automne, qu'on a vraiment l'impression de voir deux films complètement différents. Donc, on sent vraiment une coupure en plein milieu du film. Et là, on va changer complètement d'environnement, on va changer complètement de fil conducteur, même, ce qui rend ça assez bizarre. Là. Ça fait en sorte que j'ai pas réussi vraiment à m'attacher au personnage. J'ai pas vraiment réussi à comprendre. On développe pas beaucoup aussi au niveau de leur backstory, donc on comprend pas tant leur psychologie. Mais en même temps, au niveau des émotions des personnages, il y a un travail assez intéressant qui est fait. Parce que les émotions que les personnages vivent, en fait, elles sont très fortes, sont très bien performées par les acteurs, c'est crédible, c'est intéressant, mais ça reste quand même très intellectualisé, c'est très imagé. Il y a de nombreuses métaphores, notamment un plan sous l'eau ou des bruits particuliers comme ceux de baleines. On va revenir souvent à ça pour démontrer l'émotion. Donc,
est-ce qu'on sait si c'est la même baleine qui a fait mon ami Willy?
Oui, en fait, elle te fait dire bonjour aussi, puis elle aimerait ça te remettre un trophée pour tes blagues excellentes.
Merci, merci. C'était mon ami Willy.
Oui.
Mais, bref, c'est ça, ça fait en sorte que c'est pas un film, il y a beaucoup d'action, vous l'avez dit, la bande-annonce, ça devient vite lourd, le film devient vite lourd. Malgré tout, il y a quand même un travail intéressant au niveau de comment on montre les émotions. Ça peut être intéressant aussi de voir ce qu'il ne faut pas faire dans un film aussi, ce qui vient vraiment déranger le spectateur. Donc, je suis quand même allée chercher quelque chose de ce film-là. Malheureusement, c'était effectivement un peu long. C'est très pointu, mais ça nous fait voir aussi une autre façon de réaliser un film. Donc, il y a quelques petits trucs assez intéressants là-dedans. Donc, une note, je donnerais 5 sur 10.
5 sur 10?
Oui.
C'est quand même décevant.
C'est quand même mieux que Flatliners, j'ai l'impression.
C'est probablement mieux que Flatliners. Ouais. Flatliners était dur à écouter.
Oui.
OK. Bon, ben, un 5 sur 10 pour le plongeon, la board, le moment de Michael Phillips. Non, le plongeon, le plongée.
Plongée, film dramatique français de Mélanie Laurent.
Voilà.
Bon,
voilà.
Ben, merci beaucoup, Mélina.
Merci.
Hey, moi j'ai pas été voir un film à propos de la plongée, ni même à propos de Michael Phelps. J'ai été voir un film à propos de Sicario, ces bandits mexicains super bien représentés dans les médias télévisuels dans les dernières années.
Mm-hmm.
Bon, j'ai été voir Sicario 2, le jour du soldat. Ouais, c'est ça, Sicario Day of the Soldado. C'est la suite d'un film, dans le fond, qui avait été réalisé par
Denis Villeneuve,
qui était extraordinaire, qui mettait entre autres en vedette Josh Brolin, Benicio Del Toro, également Emily Blunt dans le rôle de Kate Mercer. Cette fois-ci, c'est réalisé par Stefano Solima, qui est un réalisateur italien, surtout connu pour des films de police vraiment sombres, vraiment noirs. C'était son premier vraiment grand métrage au niveau américain. J'ai comme un setup, je vais vous mettre la bande-annonce puis on s'en parle tout de suite après.
D'accord.
« Qu'appelleriez-vous le terrorisme? La définition la plus courante, c'est un individu ou un groupe qui fait usage de la violence à des fins politiques. Le gouvernement considère que les cartels de la drogue correspondent à cette définition.
Avez-vous remarqué à quel point c'était générique, pareil comme toutes les autres, puis que cette bande-annonce-là aurait pu être bonne pour tous les autres films d'action super-héros qu'avec des terroristes qu'on a vus dans les 10 dernières années?
Quand j'ai vu la première fois la bande-annonce, je pensais que c'était un Mission Impossible. Jusqu'à ce que je vois que c'était pas ça. J'avais vraiment l'impression que c'était un Mission Impossible.
Ben, l'absence de
Tom Cruise,
Tom Cruise aurait dû t'indiquer, là. Oui, mais... Del Toro, Josh Brolin sont assez reconnaissants, mais honnêtement... On va faire le synopsis rapidement. Là, la situation s'envenime à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Plusieurs personnes migrent au nord pour commettre des actes terroristes. Afin de rétablir la sécurité du pays, le secrétaire à la défense américain fait appel à son meilleur soldat, Matt Graver. Il n'a pas peur de salir les mains et il obtient le mandat de créer une guerre parmi les cartels mexicains. Une opération illicite qui est possible grâce à une force spéciale de frappe et la présence d'Alejandro Gilic, un complice tueur à gage habitué à ce type de mission. Leur route croisera celle d'un jeune passeur et d'une adolescente issue d'une famille importante. Là, le dernier film était un chef-d'œuvre de Denis Villeneuve. C'était quelque chose de vraiment intéressant. On voyait Emily Blunt qui devait traverser les différentes passerelles des différentes agences gouvernementales, des espèces de choses qui se passaient dans l'ombre, des espèces de multiples rouages que le gouvernement américain se sert pour pouvoir mener ses luttes secrètes, pour pouvoir toujours se garder une clause pour refuser toute responsabilité, pour refuser l'imputabilité que de tels actes pourraient avoir de l'autre côté de la frontière et même de ce côté-ci de la frontière. On avait vraiment une espèce de elle va et vient entre elle et le personnage de Josh Brolin et le personnage de Benicio Del Toro, où est-ce que elle essayait de comprendre un peu naïve agent du FBI qui était impliqué là-dedans malgré elle et qui devait gérer une situation qui était vraiment au-delà de ce qu'elle était habituée de gérer. Elle est absente et on perd toute forme de personnage qui pourrait retenir ces gens-là. Fait que tout ce qu'on a pendant 2 heures, c'est Josh Brolin qui mène une opération militaire comme il le veut, au gré des lois, sans jamais se demander un instant à quoi ça lui en coûte que d'envoyer des troupes armées américaines en sol mexicain sans permission. Qu'est-ce que ça peut coûter au niveau diplomatique, au niveau des vies humaines, au niveau de la survie, dans le fond, des relations internationales états-uniennes. C'est un espèce de film complètement déjanté où est-ce qu'on prend tout ce qui était plaisant ou tout ce qui était intéressant de Sicario 1, puis on ne garde que les scènes d'action, que l'espèce d'ambiance un peu comme noire et de nuit avec des moments d'incompréhension. Ben, c'est tout parti pour plus de guns.
Comme on fait souvent avec des subites, là, mais c'est décevant.
Mais absolument, on essaye au moins de garder qu'est-ce qui a rendu le film intéressant, même si on le fait mal. Je veux dire, Ocean Eleven était excellent parce que c'était un film de crime avec un crew intéressant et une histoire vraiment bonne. Ocean 12 au moins gardait la prémisse que c'était un film de crime. Là, tout ce qu'on a, c'est qu'au lieu d'avoir un film sur l'incompréhension par rapport au système, puis l'individu par rapport aux agences mises en place, on a juste les agences mises en place qui font ce qu'ils sont supposés faire.
Fait que c'est un film, mais pas d'histoire.
Honnêtement, je pense que ça aurait vraiment mieux fonctionné comme une série de courts-métrages sur la violence commise par les États-Unis à l'international. Si au moins on avait pu s'en sauver avec les images magnifiques du premier, on aurait pu au moins avoir quelque chose de joli. On s'en sort pas.
C'est pas beau.
C'est pas très joli. Les scènes sont tout le temps tournées très rapidement. On n'a pas le temps vraiment de centrer l'action. Sauf à quelques moments vraiment sentimentaux. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est habitué de faire des films dramatiques qui a soudainement décidé de prendre la caméra pour un film d'action. Dès qu'il est question, il y a entre autres une scène très touchante avec un fermier mexicain sourd et muet. Vraiment de toute beauté, on prend un temps pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais tout de suite après, il y a une scène d'action et la caméra fait juste partir en branle et n'arrête jamais de bouger. On n'a jamais le temps de comprendre vraiment d'où viennent les tirs, où vont les tirs, pourquoi est-ce qu'on tire. Alejandro, qui était présent dans le premier comme cette espèce de personnage mystérieux, a une histoire, mais qui est pas vraiment bonne, puis il a tous les pouvoirs. D'un coup, il est capable de parler le langage des signes, se mettre à comme discuter avec les moutons, je veux dire, tirer comme si c'était un dieu, résister au tir de balle. Il y a rien vraiment qui m'a semblé justifier une telle dépense d'argent pour refaire un film qui était déjà très bon. Le premier était excellent, on aurait juste dû laisser ça là. Ça fonctionnait bien comme seul film, surtout que le film avait été pensé pour n'être qu'un seul film. Mm-hmm. Donc, l'histoire était bien contenue en elle-même. C'est vraiment parce qu'ils ont décidé de faire plus d'argent qu'ils en ont créé un deuxième. Il faut même se battre pour être capable de trouver avec une histoire modérément raciste, avec comment est-ce que tout ça est justifié par un assaut, par un attentat suicide au Texas, commis par un ressortissant syrien, mais qui est passé par le Mexique pour rentrer.
Oh boy, OK, c'est compliqué, là.
Ouais, jusqu'à temps qu'on réalise que sur les 6 personnes dans l'attentat, il y en a... En tout cas, c'était pas bon.
Mais c'est pas du tout, au niveau de l'histoire, c'est pas du tout une suite du premier, là. C'est le même contexte, mais c'est pas la même chose. C'est ça?
C'est comme s'il avait décidé de garder l'univers. Puis je pense que c'est ça qu'il voulait dire par le titre. Se rappeler que ça ne s'appelle pas... Sicario 2, ça s'appelle vraiment Sicario, jour du soldat. Je pense que tout ce qu'ils ont voulu faire, c'était de garder un peu, justement... Parce que c'est vrai que les personnages étaient intéressants, là, je veux dire. Si j'avais eu la chance d'avoir plus de cette interaction torturée qu'il y avait entre l'espèce de triangle de Benicio Del Toro, Josh Brolin et Emily Blunt, j'aurais adoré ça. S'il y avait eu quelqu'un pour diriger les dialogues de manière aussi impressionnante que Denis Villeneuve. Malheureusement, c'était pas le cas. Tant en tant que fan de films d'action que de films tortueux, que de films qui font réfléchir, j'ai rien trouvé à mon compte. Je n'ai pas aimé ce film assez solidement, assez que je donne un 5 sur 10. Il rentre pour moi dans la catégorie de ces suites qui n'auraient pas dû être.
Et tu donnerais combien au film Sicario de Denis Villeneuve, le premier?
Je vais faire une confidence. Sicario était le film de Denis Villeneuve qui, à ce jour, j'ai le moins aimé. Je considère que Arrival, Incendie, Blade Runner 2049, malgré ses failles, était meilleur que Sicario. Sicario essayait beaucoup, mais malheureusement, c'était trop rapide. Il manquait peut-être la fantaisie, pas la fantaisie, mais la possibilité de sortir du réel que Denis Villeneuve se permet habituellement. J'aurais donné un 7.5 au premier.
OK. Puis là, un 5.
Un 5.
Okay.
Parce que le premier est bon. Ben, en fait, même un 8 probablement au premier. Parce que le premier est bon, il y a des scènes vraiment intéressantes, mais c'est ça, le deuxième est juste. C'est décevant. Je recommande Sicario tous les jours, je ne recommande pas Sicario 2.
Bon, ben c'est noté. Merci Louis.
Merci Jim.
C'est le moment des sorties cinéma.
On est sorti avec mes chums de fées. Est sorti cette semaine. Ideal Home, maison idéale, comédie dramatique américaine réalisée par Andrew Fleming, mettant en vedette Paul Rudd, Kate Walsh, Alison Field, Jake McDormand. Le célèbre chef Erasmus et son... Quel nom de merde! Célèbre chef Erasmus, c'est clairement un titre métaphorique parce que c'est un dieu grec. Et son partenaire Paul mène une existence paisible. Leur existence parfaite est bouleversée quand, lors d'un dîner, Erasmus est confronté au petit-fils qu'il n'a jamais connu. Avec le père de l'enfant en prison, il semble qu'il n'a nulle part ailleurs où aller et donc, après beaucoup de débats, il décide de l'accueillir. Avec les changements et les défis des deux côtés, cela pourrait s'avérer une catastrophe. J'ai pas vu de bande-annonce pour ça.
Moi non plus, je dis rien.
Je vais mieux, comédie française réalisée par Jean-Pierre Amry.
Ça, j'ai vu beaucoup de bandes-annonces pour
passe
ça.
Un peu trop souvent, cette
bande-annonce. Tu vois, on va pas voir le même film, mais ça apparaît parce que moi, j'ai rien vu.
Faut que tu voir les films français pour en voir.
Ouais, c'est ça, j'aime ça le plaisir. Eric Elmosnino, Harry Habitant, Judith Elzine, Alice Paul et François Berléand. Un quinquagénaire est victime d'un mal de dos fulgurant. Tous les médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui. La racine de son mal est psychologique. Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il changer pour aller mieux? C'est faux, j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air quand même drôle.
Oui, ça a l'air plutôt bien.
Un qui me déçoit un peu, parce qu'encore une fois, c'est un film qui aurait juste besoin d'en avoir un pour que ce soit bon. Le Justicier 2, version originale de The Equalizer 2.
Hey, j'avais l'impression de voir le film avec Bruce Willis de retour. Tu sais, le film que t'as pas aimé, là?
De Death Wish,
cette ouais. Cette bande-annonce-là m'a fait penser à ça.
Oui, oui, mais à la base, le premier Equalizer était bon parce que, bon, c'est Denzel Washington qui joue le personnage principal. C'est une espèce de concierge un peu banal qui, dans un moment de violence fulgurante, fait juste partir sa montre et tuer tout autour de lui. Il arrête sa montre quand il a fini. C'est comme une espèce ouais. d'histoire de timing. Mais c'était bon parce que c'était nouveau, parce que c'était pas si bon que ça, là. C'était juste bon. Puis c'était comme intéressant parce que justement, c'était un type banal qui avait pas vraiment d'histoire, que là, soudainement, puis devenait comme trop fort pour la Ligue. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont l'air de vouloir faire. Là, ça a l'air de vouloir explorer le passé du dude. Fait en tout cas, ça met en vedette Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe et Ashton Sanders. C'est réalisé par Antoine Foucault. Pas le même, le même réalisateur que le premier, fait à voir. De toute façon, entendons-nous, s'il y a quelqu'un qui allait le voir ici, c'est moi.
Et probablement, oui.
Mamma Mia, c'est reparti. Version originale de Mamma Mia, Here We Go Again. Comédie musicale américaine réalisée par Hall Parker, mettant en vedette Lily James, Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan et Stellan Skarsgård. Beaucoup d'acteurs que j'aime, et d'actrices que j'aime beaucoup là-dedans.
Ça fait longtemps
que
j'ai pas vu au cinéma Pierce Brosnan.
Et on voit jamais assez de Stellan Skarsgård. Le film voyagera du passé au présent afin de démontrer comment les relations interpersonnelles forgées dans le passé résonnent dans le présent. Un qui m'intéresse beaucoup, Mary Shelley, drame biographique de la Grande-Bretagne et du Luxembourg, réalisé par Haifa Almanzo, mettant en vedette Hal Fanning, Maisie Williams, Belle Parley, Douglas Booth, Ben Hardy et Tom Sturridge. En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation passionnée et scandaleuse avec le poète Percy Shelley et s'enfuit avec lui. En 1816, le couple est invité à passer l'été à Genève, au bord du lac Léman, dans la demeure de Lord Byron. Lors d'une nuit d'orage à la faveur d'un pari, Mary a l'idée du personnage de Frankenstein. Dans une société qui ne laissait aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley, 18 ans à peine, allait révolutionner la littérature et marquer la culture populaire à tout jamais.
Effectivement intéressant.
C'est un livre que j'ai trouvé absolument extraordinaire, Frankenstein de Mary Shelley. Il a été beaucoup galvaudé par énormément de réadaptations. Le personnage a marqué la culture populaire de multiples manières. Mais de voir comment l'histoire de la création et surtout de la créatrice de ce livre-là, j'aimerais beaucoup ça.
Intéressant.
Pas de panique, il n'ira pas loin à pied. Version originale de Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. Américain, réalisé par Gus Van Sant, mettant en vedette Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black, Mark Webber et Udo Kier. Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d'une nuit de beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n'a pas la moindre intention d'arrêter de boire. Finit pourtant par suivre une cure de désintoxication soutenue par sa compagne et un mentor charismatique. Et il se découvre alors un don inattendu. Il crée des dessins à l'humour noir, satirique et insolent qui lui vaudront un succès international dès leur publication dans la presse. En dessinant, Callahan découvre une nouvelle manière de voir la vie. Salut 7, version originale de Salut 7, drame russe réalisé par Klim Shipenko. Je ne me serrais même pas sur le nom des acteurs-actrices.
Ouais, non, vaut mieux pas.
Pavel Derevyanko? Ouais, ça se passera pas. URSS, juin 1985, basé sur des faits réels. Après avoir perdu le contact avec la station spatiale Salyut 7, les cosmonautes Vladimir Dzanibekov et Viktor Savinik accostent l'engin vide et congelé et le ramènent à la vie. C'était ça pour les sorties. Donc, on se parle de nos films d'été, mais avant ça, Jim nous parle d'un film qui... Le retour de Hercule. Non, le retour du zéro. Non, c'est la toune de Projet Orange, là, de Héros à zéro. Non, c'est le retour
du... C'est-tu qu'ils sont pas drôles, ces jokes? En tout cas, mais... Le retour du héros, oui, effectivement, un film, en fait, comédie, on l'aura deviné, franco-belge, co-écrite
et réalisée. Ah oui, ça avait l'air tellement bon.
Oui, co-écrit et réalisé par Laurent Tirard. Ça met en vedette, bon, on a droit à Jean Dujardin, nul autre que Mélanie Laurent, qui a d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, écrit et réalisé le film que Mélina a critiqué, donc Plongée. Et Noémie Merlant, qui elle aussi a joué dans le film Plongée. Et Christian Bugeaud, que je connais surtout comme étant le maître d'armes dans la série Kaamelott, mais qu'on a vu dans de nombreux films. On écoute la bande-annonce du film Le Retour du Héros.
Suivez vos larmes, Pauline. L'empereur va écraser ses Autrichiens. Et nous serons rentrés en Orient.
Vous m'écrirez?
Tous les jours, je vous le promets.
N'y crains pas.
C'est un séducteur, voilà la vérité. Un séducteur.
Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Il y a 3 ans, vous êtes parti pour l'Autriche. Pauline est mariée, mère de 2 enfants, et pour elle, vous êtes mort et enterré.
Je la rassure sur le champ.
Non, vous n'avez même pas pris le temps de lui écrire. Alors je l'ai fait, moi. Voilà, je me suis fait passer pour vous, je lui ai écrit quelques lettres, et dans la dernière, je vous ai fait. Mais attention, Neville, vous êtes mort en héros.
Ce serait dommage de tout gâcher, non?
Ah oui.
Ça sonnait tellement magnifique. Je pense que je vais aller le voir sur mes temps libres.
Ben écoute, tu vas certainement t'y retrouver. Donc, le film s'appelle Le Retour du héros. Vous avez entendu la douce voix de Jean Dujardin, si je peux me permettre. Évidemment, Mélanie Laurent, qui, disons, a une personnalité très forte dans ce film. Et Louis Laramée derrière la console, mais ça n'a rien à voir avec le film. Donc, en 1809, l'histoire, en Bourgogne, Jean Dujardin incarne le capitaine Neuville, un menteur, un séducteur, un opportuniste, qui, après avoir demandé la main de Pauline, est appelé à quitter en urgence pour l'Autriche pour combattre au nom de Napoléon. Je crois bien que c'était Napoléon à cette époque-là, en tout cas l'empereur.
C'était bien Napoléon.
C'était bon Napoléon. Bon, voilà. Donc, il promet à Pauline de lui écrire, mais silence radio. C'est donc la sœur de Pauline, Élisabeth, qui est interprétée par Mélanie Laurent, qui se fera passer pour lui et lui écrira des lettres et vont correspondre ensemble. Et jusqu'au jour où, par hasard, en ville, la sœur de Pauline, Élisabeth, tombe sur un Jean Dujardin, en fait, un capitaine Neuville tout défringué, complètement un itinérant sans aucune classe qui pue. Bref, l'espèce de j'ai pas de terme pour ça, là, mais une limbe humaine.
Une loque humaine,
ouais, c'est ça.
Parce que les limbes, c'est l'endroit où les loques vont pour attendre le jugement dernier.
Merci pour cette précision religieuse. Et donc, voilà, il revient en Bourgogne, comme on l'entend dans la bande-annonce. Disons, Élisabeth lui apprend que Pauline a passé à autre chose, s'est mariée, a des enfants. Et là, il se met dans la tête, donc, d'aller retrouver son rôle du prestigieux capitaine. Alors, il retourne là-bas, il est accueilli et traité comme un héros, il vante ses exploits et ses faits d'armes, alors qu'en fait, c'est un déserteur pissou sans aucune classe. Élisabeth, qui n'avait pas du tout prévu ça dans son horaire, se lance dans une contre-attaque perpétuelle pour se débarrasser de lui, du fake capitaine Neuville. Donc, c'est un film, vous l'aurez compris, assez drôle, du début à la fin. C'est Jean Dujardin, pas la peine d'en dire plus sur le sujet. Cet homme est charmant et très agréable à écouter et regarder. Il est dérangeant de drôlerie. L'histoire en elle-même est relativement simple, donc ça sert... Il n'y a rien de compliqué là-dedans, il n'y a rien qui a été, disons même, on réinvente pas la roue non plus, on sort pas du tout des sentiers battus, mais on applique assez bien une formule qui marche tout à fait bien. Si vous voulez rire, vous changer les idées, ben vous devriez vraiment aller voir ce film-là, Le Retour du héros. Évidemment, bon, il y a des défauts à ce film-là. Premier défaut, qui n'en est peut-être pas un, mais bon, c'est bourré d'anachronismes sociaux. On fait presque des références à la place des femmes.
C'est vrai.
Des choses comme ça. Il y a d'autres exemples comme ça qui me sont sortis de l'idée, de la tête, mais...
Quand elle va négocier, si on veut, elle va comme négocier un salaire, si on veut, puis elle exige 50-50, puis elle dit, mais là, on est rendu là aujourd'hui.
C'est ça, elle dit, on n'est plus au Moyen-Âge, mais ils sont en 1800.
C'est ça.
On s'entend que, bon. Donc, ouais, tout ça, évidemment, les femmes ont des rôles, disons, plus importants qu'ils l'auraient sans doute eu en 1809 dans cette histoire-là. Mais dans tous les cas, c'est très bon. Moi, je trouve ça le fun. On s'approprie un peu l'histoire, un peu comme Kaamelott le faisait à sa façon. Donc, bon, c'est ça. Il y a des défauts, mais je pense que malgré tout, on a pu voir la qualité du jeu des acteurs. Certains clins d'œil à certains moments, mais surtout... des moments captivants où on voit soit le capitaine Neuville qui struggle dans sa situation ou même Élisabeth qui est dépassée par les événements qui n'arrivent pas du tout c'est une guerre, tu vois, c'est une guerre dans le fond. Ça parle beaucoup de guerre dans ce film-là, mais la vraie guerre, c'est une guerre d'ego un peu entre ces deux personnes-là. Et il y a des moments donnés, des moments qui pourraient être considérés comme tragiques au cinéma, mais qui, vu que c'est dans une comédie, évidemment, passent très bien, notamment la scène du duel. Donc, un moment qui... On a quand même des tensions dans ce film-là. Donc, c'est pas cheap, nécessairement, non plus. Cela dit, bon, je donne une note de 8 sur 10 à ce film-là. Donc, je donne une note de 8 sur 10 à ce film-là parce que c'est le fun. Mais on tourne un petit peu les coins ronds dans l'histoire. Il y a des affaires qui marchent pas vraiment temporellement non plus avec les dates de départ, de retour, l'âge des enfants. Il y a des affaires qui ont pas d'allure, mais ça demeure très drôle. Ça demeure léger. C'est un bon film pour l'été. Je vous recommande fortement d'aller voir ça. Si vous avez envie de quelque chose qui vous fait juste décrocher, rire, penser à autre chose, avoir un beau moment, oubliez l'histoire, on s'en fout, c'est le fun et vous allez vraiment rire tout le long, ça je vous le garantis. C'est du grand Jean Dujardin comme on en a l'habitude. Donc voilà, le film s'appelle Le Retour du héros, c'est en salle en ce moment.
Merci beaucoup, Jim.
Mais de rien.
C'est le moment du top 5.
Bon, mesdames et messieurs, on est rendu au moment d'attente tant attendu, le moment où l'équipe de Cinébranche vous parle de son top 5 des films d'été. Jim insiste qu'il est rendu au milieu du mois de juillet, l'automne est à nos portes.
Absolument.
Les températures vont se rafraîchir, la neige s'en vient.
Les journées ont déjà recommencé à raccourcir. Bon, bref, c'est le chaos s'en vient.
Le chaos s'en vient. Moi, je pense que le chaos est déjà arrivé avec les températures de canicule. D'ailleurs, l'équipe de Cinébranche vous rappelle qu'il est important de boire de l'eau en ces temps de chaleur.
Voilà.
L'hydratation, c'est important. Également, vous rappelez que le Carrefour de l'Estrie est doté d'une air climatisation à tout casser.
Ah, c'est noté. Le ouais, cinéma ouais. Aussi, d'ailleurs.
Le cinéma également. Quoique le Granada, apparemment, pas.
Ah bon?
Je
parle par expérience.
C'est de formation privilégiée.
Ah, d'accord.
Donc, le top 5 des films d'été, on a pas mal tous décidé de faire. C'était quoi notre top 5 des films qui étaient le plus agréable à écouter en vacances? Moi, je pense qu'on va y aller sur un comme... On va y aller par étapes, donc on va tout donner notre top 5 et
ouais,
on va
bon.
Passer à l'autre. Étant donné que je suis si altruiste et empathique, je vais laisser Jim commencer.
Oui, en fait, moi j'ai choisi vraiment le thème des films de vacances, donc qui non seulement que moi j'écoute pour mes vacances, mais qui aborde le thème des vacances. Donc, en cinquième position de mes meilleurs films pour les vacances et donc pour l'été, je vous présente le film que vous connaissez déjà, Charlotte a du fun, film québécois, paru récemment, donc qui je pense que ça se peut-tu qu'il soit sur Netflix? Je suis pas sûr. Non, je vais peut-être halluciner ça. En tout cas, il devrait pas tarder à sortir en Blu-ray et donc d'être disponible un peu partout. Charlotte a du fun, film de la réalisatrice Sophie Lorrain, qui, oh mon Dieu, avec plein de gens qu'on connaît pas, mais qui sont de jeunes acteurs, disons, qui ont du talent. Film en noir et blanc, comédie, disons, film d'ado, mais vraiment pas cheap. On l'a tous critiqué ici de façon commune et tout le monde a adoré ce film-là. Donc,
pas sur Netflix.
Pas sur Netflix, bon. Dommage, mais éventuellement, j'ose croire qu'il y sera. Excellent film. C'est drôle et intelligent à la fois, ça aborde des thèmes d'ado mais d'une façon intéressante et on ne voit jamais d'adultes dans ce film-là. Chose vraiment le fun aussi au niveau du thème, puis l'utilisation du noir et blanc dans le film est très très bien aussi. Donc franchement, je vous recommande ce film-là, c'est un film léger mais qui a pas peur quand même d'aborder des affaires un peu plus lourdes.
Avec la mention spéciale de Louis, c'est aussi le meilleur film où on entend parler de bonne ou de mauvaise salope, vraiment souvent.
Absolument, et de vulgarité quand même, oui.
assez
utilisé.
Oui, voilà. Oui.
Donc Charlotte a du fun, mon numéro 5.
Mélina?
Oui, et moi en fait je suis allée avec un top 5 des films que je voulais voir cet été ou que j'allais voir cet été ou que j'avais vu cet été ou que dans le fond je vous conseille de voir cet été. Donc, c'est pas nécessairement des films de vacances. En fait, je vais commencer par le film merveilleux que j'ai critiqué un peu plus tôt dans l'année. En anglais, c'est Wonder. Donc, c'est le film avec Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay. Donc, on se souvient, c'est l'histoire de ce petit garçon qui a une malformation faciale, qui commence l'école après avoir fait l'école à la maison jusqu'à maintenant. Donc, c'est un très bon film que j'ai beaucoup aimé et qui est disponible maintenant à voir à la maison. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Ça s'écoute bien l'été, c'est beau, c'est cute, c'est profond en même temps. Donc, vraiment un beau film avec une belle morale. Donc, voilà mon numéro 5.
Le numéro 5 voilà. De Mélina. Moi, j'ai été pour des films qui beaucoup liés à la température. Fait qu'en position numéro 5, c'est le film Drive, en français Drive, par Ryan, entre autres, je recommence.
Vas-y.
5, Drive, avec Ryan Gosling. Pourquoi Drive? Parce que ça se passe dans les nuits chaudes de Los Angeles. On suit un jeune Ryan Gosling qui est un espèce de chauffeur pour des criminels. C'est un peu comme... c'est sombre, puis en même temps, c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de lignes de dialogue. Il y a aussi Bryan Cranston qui joue là-dedans. Il y a une histoire d'amour. Il y a un jacket avec un scorpion qui revient tout le temps. C'est un film qui est extraordinairement beau à regarder. Il y a une scène, entre autres, la scène de l'ascenseur qui est extraordinaire, qui est sans pareil.
La musique est très bonne, semble-t-il, dans cette scène.
Kavinsky, l'artiste français, fait une bonne partie de la bande sonore qui est vraiment très excellente. J'ai besoin de me répéter dans mes qualificatifs en ce moment.
Ne pas confondre avec l'autre film Drive, où les gens ont des orgasmes en prenant des accidents de voiture.
Ou The Driver, avec ouais, qui est une autre affaire complètement aussi. On parle de Drive ici avec Ryan Gosling. Vraiment bon, je l'adore. Et en plus, ça se passe dans les nuits chaudes de Los Angeles. Ouais. Jim!
Oui, alors mon numéro 5, c'est un film français, comme c'est étonnant, un film français qui s'appelle Les Sous-doués en vacances, film que j'ai découvert grâce à mon ami Max, qu'on salue, mais on salue Max.
Bonjour Max.
Shout out Max!
Et donc un film avec nul autre que Daniel Auteuil, Guy Marchand, Grâce de Capitani, Charlotte de Turckheim, Jean-Paul Faré et plein d'autres gens. C'est réalisé par Claude Zidi, film de 1981, donc 80-81. Un film humoristique dans lequel on a d'ailleurs une chanson qui est devenue mémorable. Je vais peut-être la faire jouer après le top 5 pour le fun. Donc, une chanson, disons, un peu particulière qui a été composée pour le film. Et en fait, le film raconte l'histoire, entre autres choses, de comment trouver l'amour véritable. Et de cette façon, je vous dirais que on a inventé une machine qui permet, pendant du dating, de mesurer certains éléments et de faire le match parfait. Alors, tout ça est basé sur un thème de vacances où des gens un peu voyeurs vont se promener, faire passer une Madame obèse pour Brigitte Bardot pour faire de l'argent. Bref, toutes sortes d'histoires comme ça. Un film extrêmement drôle qui a peut-être un petit peu vieilli, mais bien vieilli. Donc, c'était mon numéro 4, Les Sous-doués en vacances.
Moi, en fait, en numéro 4, Louis t'a parlé tantôt de Ryan Gosling. Ben, on le rappelle, en fait, parce que mon numéro 4, c'est le film La La Land, donc où il tient la vedette avec Emma Stone. Donc, ça se passe en Californie, à Los Angeles, l'été. Il y a plein de soleil, il y a plein de musique. Donc, ça fait très estival comme film. Donc, c'est un film que je n'ai malheureusement pas encore vu. C'est pourquoi il est dans mon top 5 de films que je dois absolument voir cet été ou que je vous recommande de voir cet été parce que je sais déjà que ça va être bon.
Pour l'avoir vu, parce que il est sorti quand même l'hiver dernier, excellent film.
En 2015, en fait.
En 2015, ouais. Regarde bien, là. Ça va,
un an n'attend pas l'autre, Louis.
Le temps passe,
le temps file.
Surtout en si bonne compagnie, les amis. Voilà. Mais c'était vraiment bon. Mais il faut aimer le jazz. Il faut aimer. La première scène, entre autres, est vraiment malade. Mais bref, mon numéro 4... Numéro 4, Le Rôdeur. Le film qui s'appelle Nightcrawler en anglais, qui se passe encore une fois dans les nuits chaudes de Los Angeles. Mais cette fois-ci, on suit Jake Gyllenhaal, acteur canadien que j'aime beaucoup, dans le rôle d'un espèce de sociopathe vraiment étrange qui rêve de devenir caméraman pour la télé et qui se met à filmer des scènes de nuit de violence dans les rues de LA, puis toujours de se rapprocher plus des événements, scènes, pour être capable de filmer de plus en plus proche jusqu'à l'amener dans une spirale autodestructrice.
Ça a l'air vraiment intéressant.
C'est un film que tu finis, t'as l'impression que t'as la peau graisseuse de saleté. T'as envie d'aller prendre une douche, puis tu sais pas trop pourquoi. Mais je le recommande vraiment beaucoup parce que ça vaut la peine. C'est un sentiment, le fun, dans ces moments-là. Puis pour moi, c'était le film qui a cimenté l'habileté de Jake Gyllenhaal de me faire croire tous les personnages qu'il joue.
Eh ben.
Ouais.
Eh ben.
Jim, numéro 4.
Oui, numéro 3.
Numéro 3.
Oui, alors mon numéro 3 est revenu à quelques reprises dans mes top trucs. C'est un film avec Franck Dubosc. Il y en a eu plusieurs, une trilogie, mais ce
Camping!
N'est... C'est exact. Alors, Camping, je ne ferai pas de distinction entre Camping et Camping 2, qui sont, à mon goût personnel, tous deux aussi bons. Même que j'ai peut-être une petite préférence pour le deuxième, mais bon, le troisième, par contre, est vraiment moins bon. Mais donc, Camping, film avec Franck Dubosc. Le premier film était réalisé par Fabien Otteniente. Et donc, ça raconte l'histoire très, très typique des gens qui retournent chaque année durant les vacances au même camping, au même emplacement, avec le même monde autour, les mêmes, la même danse, le même karaoké, le même tout, toutes les affaires qui reviennent pareil. Mais évidemment, il n'y aurait pas de film si tout se passait toujours aussi bien. Il y a toujours une personne qui a comme pas rapport, qui apparaît là, qui a ses propres problèmes. On va essayer de l'inclure. En même temps, bon, il y a d'autres problématiques au camping. Tout ça fait qu'on est dans une espèce de comédie situationnelle extrêmement drôle. Qui, ma foi, met en vedette le style le charmeur, menteur de Franck Dubosc et tout ça. Donc, un film franchement intéressant. Après réflexion, j'aurais peut-être interchangé avec Charlotte a du fun, mais quoi qu'il en soit, un excellent film. Et je peux lui donner quand même une bonne note parce que je l'ai vu vraiment beaucoup, ce film-là.
Ça fait très été.
J'ai dû voir une dizaine de fois, ce film-là. Donc, oui, Camping. Ouais. Donc, c'était mon numéro 3.
Voilà. Excellent.
Mais je suis content que ce soit Camping et non pas Camping sauvage.
Il ne sera pas dans mon top 5.
Conversation. Ça peut être éventuellement, peut-être la semaine prochaine.
Le top des pires films.
Non, mais un top 5 des films québécois, les plus, les moins. Ouais. En tout cas, tu sais, là.
Éventuellement.
Non, bientôt, bientôt. Mais non!
Moi, ce que je vous conseille en troisième position comme film à regarder, c'est les deux films 1981 et 1987.
Bien sûr, donc, pour le film 1991 qui s'en vient.
Qui s'en vient le 27 juillet. Donc, les films de Ricardo Troggi à saveur autobiographique. Donc, le premier, c'est quand il avait 11 ans. Donc, on part de l'enfance. Le deuxième film se déroule à ses 17 ans. Mm-hmm. Deux films
en 1987.
Exactement. C'est ça. 6 ans plus tard.
C'est une trilogie. Parce que moi, je vois juste la bande-annonce de 1991 et je trouve que ça a l'air drôle à mourir.
T'as pas vu les deux autres? Ah, c'est vraiment très bon. Là.
Ça vaut la peine de voir les deux autres, en fait. Ricardo Troggi, qui quand même fait des films à chaque fois intéressants. Je me souviens Québec-Montréal, qui était quand même quelque chose d'intéressant à voir. Donc, en prévision de 1991, qui va être en première position de mon top 5, donc je vous spoil déjà la fin de mon top 5, mais il reste la deuxième position que vous pourrez deviner.
Voilà.
Donc, voilà, 1981-1987.
Mmh. Merci beaucoup, Mélina. Bon, mon numéro 3, certains vont peut-être m'accuser de l'avoir choisi uniquement pour la température des dernières semaines. Ils ont raison. Ils ont raison. Encore une fois...
l'air de glace.
C'est bon, ça. C'est bon, Jim.
Idée intéressante. Dans la bonne direction, mais okay. On me connaît. Je suis un peu moins comic cute. Je suis un peu plus le jour d'après, The Day After Tomorrow. Ce film d'horreur, désastre, où est-ce que le réchauffement climatique crée un grand refroidissement suite à... Quelque chose, météo.
C'est quand même bon, ce film-là.
Avec, encore une fois, Jake Gyllenhaal qui est dedans. Encore une fois, c'est pas si bon que ça. Là.
C'était le fun.
Et Christy, de savoir que le réchauffement climatique peut aussi causer des refroidissements en ces temps de canicule, ça me rend heureux.
Bon.
Jim, ton numéro 2.
Alors, mon numéro 2, c'est en fait le film Nos jours heureux. Alors, Nos jours heureux, une comédie, mais avec, disons, peut-être un petit peu moins légère que les autres. Ça se passe dans un camp de vacances avec plein de jeunes, des petits garnements qui font des niaiseries, puis bon, tout ce qui va avec. Mais plutôt que de suivre directement ce que font les jeunes, le film, parce qu'il y a eu beaucoup de films avec des trucs d'OTJ puis de camp de vacances, mais là, on a vraiment un film où on suit les moniteurs. Hmm. On suit l'équipe d'animateurs qui ont des égos, ces gens-là, ils ont des problèmes de vie personnelle. Ils sont pas toujours très professionnels dans leur façon d'être avec les enfants, ni avec eux-mêmes. Il y a d'ailleurs un acteur québécois qui joue dans ce film-là. C'est un film que j'adore voir, qui est très, très, très... c'est un beau film. Franchement, un beau film. C'est drôle à beaucoup de reprises. C'est un film intelligent qui nous fait réfléchir sur peut-être qui on était quand on était jeune et surtout... Le temps qui passe, l'interversion des époques, tout ça est assez intéressant. Donc, Nos jours heureux, un film français. Et voilà, c'était mon top numéro 2.
Donc moi, mon top numéro 2, c'est un film que Jim a critiqué la semaine dernière, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le film français École buissonnière.
Oh oui!
Donc ça fait pour moi très film d'été. Je le mets dans mon top 5 des films à voir cet été. Parce
en plus,
que
il est en salle. C'est le
il est en salle,
voir. Ben oui.
C'est ça, avec la climatisation sur écran géant. Ça vaut la peine parce que c'est un film vraiment qui se voit au cinéma. C'est magnifique. Ça respire l'été, ça respire la nature. Ça fait du bien à voir pendant cet été. Donc, je le recommande fortement et c'est mon numéro 2.
Moi, mon numéro 2, j'en ai trop parlé. C'est rendu le film qui est un peu la blague qui définit qui je suis ici à l'émission.
Je me demande vraiment c'est quoi, Louis?
Baby Driver.
Mmh. Baby, je pensais qu'elle allait dire Rapide et Dangereux. Tu m'as encore vu.
Je t'ai encore
vu. Il reste le numéro 1, Jim.
Ah, ouais, c'est vrai. C'est pour ça.
Mais écoute, non, mais Baby Driver est un film extraordinaire. C'est réalisé par le même type qui a fait Scott Pilgrim versus Le Monde. Honnêtement, j'ai rien à redire à ce film-là. C'est musicalement extraordinaire. Tout est timé sur la musique. Les choses sont belles. L'action est bonne. Faut passer par-dessus le fait que Kevin Spacey, pré-scandale, était là. Mais honnêtement, pour les quelques scènes où il est présent, ce film-là vaut tellement, tellement
c'est
la peine.
C'est un très bon acteur.
Aussi, beaucoup de belles scènes dehors quand il fait chaud.
Ah oui.
Donc, Baby le chauffeur, je le recommande fortement pour les films d'été. En plus, ça te demande pas de trop réfléchir, mais si tu décides de le faire, il y a vraiment une multitude de détails. À noter la deuxième scène où il y a de la musique, tous les moments où est-ce que les choses sont sur le beat.
Ah, noté. Noté. D'ailleurs, le film, je pense qu'il est sur Netflix, ça se peut-tu?
Oui.
Alors, merveilleux. C'est rendu l'heure du numéro 1.
Le moment tant attendu, un roulement de tambour.
Alors, pour l'occasion, je vais vous présenter un film que personne ici va connaître. Un film un peu ancien, mais qui, à ma connaissance, est un film culte. Je parle du film, et c'est très thématique avec le thème de mes films de vacances, Les vacances de Monsieur Hulot, par Monsieur nul autre que Jacques Tati, qui interprète de ce pas le premier rôle. Et donc, un film un peu particulier. Parce que c'est un film où il n'y a à peu près aucun dialogue. C'est un film en noir et blanc. C'est un film où il ne se passe qu'à peu près rien. On est on a un personnage et tout est autour de ce personnage-là, extrêmement naïf, maladroit, qui est le personnage en fait de Monsieur Hulot qui revient dans pas mal tous les films de Jacques Tati sous des noms différents parfois, mais le même personnage revient. Jacques Tati il y a eu un film un peu sur lui, un film d'animation qui s'appelle L'Illusionniste, que vous avez peut-être vu, qui a été fait par, je pense, la même gang qui a fait les triplettes de Belleville. Donc, ça vous permet peut-être de savoir de qui je parle. Dans tous les cas, le film Les vacances de Monsieur Hulot est un film culte. Dans ce film, on voit des portes battantes s'ouvrir et se fermer à une quantité de reprises phénoménales. On voit des jeunes enfants jouer, on voit des gens avec des filets de papillons. On parle d'un film qui date quand même de 1953, avec Jacques Tati et presque, je dirais, que lui, en fait, et des figurants et des enfants. Il y a peu de dialogue, il y a la même musique qui joue tout au long du film, et il ne se passe rien d'autre que la contemplation des vacances vues par cet être qui ne veut rien de mal à qui que ce soit, mais qui, malgré lui, va faire beaucoup de niaiseries. Donc, on a un petit côté burlesque par moment là, de ce monsieur qui va se mettre les pieds dans les plats. Donc, voilà, c'était mon top numéro 1 des meilleurs films pour les vacances de Monsieur Hulot. À toi, Mélina.
Super. Ben moi, en fait, je vous ai déjà dit, ça serait quoi mon numéro 1? Ça va être 1991, parce que je considère que c'est le film à voir cet été. Donc, voilà.
Avant même de l'avoir vu, c'est quand même particulier. Mais bon.
Merci beaucoup, Mélina, pour ce top 1 fort prévisible. Moi aussi, d'ailleurs.
Très prévisible, tiens aussi. Il va changer juste pour m'en faire parler. Regarde bien ça, je le sens.
J'ai vraiment pensé, puis honnêtement, je vais le mettre en mention spéciale, celui pour lequel je voulais changer, mais je vais garder sur la liste écrite que j'ai en ce moment devant les yeux. Ce n'est pas la série Fast and Furious?
Non.
Non?
C'est un film particulier de la série.
C'est Fast Five. C'est Rapide et Dangereux 5.
Qui
est le moment où est-ce qu'ils ont rajouté The Rock, qui était le
ton idole
pilier de cette série-là. Non, c'est Vin Diesel, mon idole.
Ah oui,
ça a vraiment fait un tournant pour la série. Ils ont vraiment... ils ont pris des libertés avec la physique, puis les coffres-forts.
Comme c'est surprenant.
Les Dodge Chargers, ça devient soudainement des chars de Superman. C'est pas grave. C'est vraiment bon, c'est super intéressant. Ils ont réussi à faire quelque chose de léger, le fun, qui met en valeur les thèmes les plus profonds de la série, qui, plutôt que les itérations précédentes, a encore un sens du fun, a encore une idée d'où ça s'en va. Et sans pareil au suivant, le 6-7-8, il n'y a pas l'espèce de nécessité d'être sombre. C'est vraiment juste okay. le fun.
C'est encore relax, léger et amusant.
Ce serait la fin de notre top 5. Et c'est donc la fin de cet épisode extraordinaire de Cinébrunch. Je vous souhaite à tous et à toutes une extraordinaire semaine et un délicieux popcorn.
Popcorn de vacances.
Popcorn à l'eau ces temps-ci, honnêtement. Ça doit être dégueulasse.
Popcorn au congélateur.
Ah, c'est pas fou, ça. Ça doit être bon.
C'est fou, ça. Non, je refuse.
Une brochette de popcorn au congélateur. C'est comme un popsicle.
S'il recouvre le chocolat, ça doit être délicieux.
On essayera ça.
Peut-être faire fondre des guimauves dessus avant puis les faire congeler.
Ok, tu pousses un peu trop loin.
Non, jamais. Donc, au plaisir de se revoir et bonne semaine.
Bonne semaine.